Je riais tout seul tout à l'heure parce que j'étais au café avant de venir et je lisais le dernier roman de Solers qui s'appelle Medium et que je trouve très, très réussi, très drôle et très vrai. Voilà, en tout cas, c'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de livres qui me font rire tout seul. Heidegger à moitié, pas toujours. Mais alors, j'ai apporté, cela dit, si, dans la mesure où ce que Solers appelle la contre-folie convient tout à fait, au fond, à la pensée de Heidegger. C'est une contre-pensée et, d'une certaine manière, une contre-folie. Alors, je n'ai apporté que trois livres, mais certains d'entre vous les connaissent, les ont déjà lus, savourés, médités. Donc, ceux-là ont peut-être plus d'aisance à saisir de quoi je vais essayer de parler aujourd'hui. Il y a Chemin qui ne mène nulle part. Déjà, quand vous partez en voyage avec Chemin qui ne mène nulle part, vous pouvez vraiment vous y retrouver, si j'ose dire. Il y a tellement de choses déjà dedans. Il y a les essais et conférences, là aussi. La dernière fois, j'avais fait allusion surtout au texte qui s'appelle « L'essence de la technique ». Et donc, chaque fois que je viens, je pense aussi à l'essence de la technique. Moi, ça, c'est un peu une galéjade, parce que c'est à quel point la technique, ça ne marche jamais, en réalité. Et justement, Heidegger disait ceci, c'est qu'il avait bien raison. Ce qui serait très inquiétant, c'est que la technique fonctionne complètement. Or, heureusement, elle ne fonctionne pas complètement. On le constate chaque fois qu'on vient, qu'on essaie de descendre les escaliers. Il ne marche jamais, donc ou très rarement. Et je trouve qu'après tout, ça nous oblige à maintenir notre poids de façon à ne pas dévaler en avant, etc. Pour remonter, on ne peut pas compter sur le déplacement, ça reste immobile. Voilà, donc je trouve ça très rassurant. Moi, je trouve aussi très rassurant quand la technique ne marche pas. Si, par exemple, on pouvait imaginer que dans les salles des marchés des plus grandes banques, à Paris, j'avais visité la salle, je crois que je l'avais dit une fois, la salle des ventes de la banque Morgan, parce que quelqu'un qui a travaillé à la banque Morgan m'avait invité à la banque Morgan pour voir ça. C'est absolument effrayant, c'est complètement fou, effectivement. Alors l'idée que d'un seul coup il puisse y avoir une panne mondiale des ordinateurs des banques, je pense que ce serait quand même une espèce de printemps qui arriverait brusquement. Alors on verrait effectivement beaucoup plus encore que dans les années 30 des banquiers se précipiter par les fenêtres des immeubles des grandes banques. Après tout, je pense que le cheptel des traders, ça se renouvelle régulièrement, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais pendant un moment, on se prédit, ouf, ils ne sont pas en train d'échanger au quart de seconde des milliards sans savoir du tout ce que ça veut dire, ces milliards. C'est complètement fou, une salle de marché d'une banque, c'est monstrueux, il n'y a pas d'autre mot. Alors, je dois vous parler aujourd'hui, et le troisième livre, c'est... Alors, j'avais parlé de l'essence de la technique, qui ne concerne pas les objets techniques, qui concerne la définition par Heidegger du monde dans lequel nous sommes entrés sans le savoir. Parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'il y a eu des progrès techniques, comme disent les gens qui datent d'il y a déjà deux siècles, du 19e et du 20e. Oui, on n'est plus à la locomotive à vapeur, maintenant on est au TGV, etc. Puis on va rouler à 300 à l'heure, puis 400 à l'heure, puis 500 à l'heure, ce qui fait que chaque fois qu'il y aura un accident, ça sera encore plus terrible. Mais ça s'appelle le progrès. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il s'agit d'un mode de rapport à l'être, qui se voile complètement au profit d'un rapport à ce que Heidegger appelle, dans le vieux langage métaphysique d'Aristote, l'étant, c'est-à-dire les choses qui sont, un rapport aux choses qui est en train d'oblitérer complètement ce à quoi l'humanité était confrontée à l'époque où il y avait encore des civilisations. Et en tout cas, où il y avait encore une civilisation, qui était la civilisation grecque, qui a inventé la philosophie, ou, si vous voulez, la métaphysique. Et là, ce qu'on est en train de faire, de vivre, sans vraiment le comprendre, sans du tout le penser du tout, parce que tout est fait pour ne pas penser ça, c'est que nous sommes dans une volonté d'arraisonnement de tout étant, qui n'a aucune raison de s'arrêter, mais qui désormais exploite indéfiniment, au-delà de toute rationalité d'ailleurs, au-delà de toute raison et au-delà de toute morale, c'est devenu ridicule de parler de morale là-dedans. Il n'y a plus de morale du tout là-dedans dans cette affaire. Eh bien, tout ce qui est exploitable, tout ce qui est rentable. Et justement, dans le dernier livre de Solaire, il fait allusion à quelque chose qui, moi, m'a toujours frappé quand j'avais commencé à lire Heidegger. Il appelle pas ça, lui, l'essence de la technique, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, y compris la matière humaine. Et Heidegger le dit dans l'essence de la technique. La matière humaine elle-même, demain, écrit-il, dans les années 30, demain, vous allez voir que ça aussi, ça va rentrer dans le compute général de l'exploitation illimitée de toute richesse à des fins de rentabilité. C'est-à-dire que la machine humaine elle-même devient un stock échangeable. Et ça, c'est tout à fait évident. C'est-à-dire, la matière première des corps, aujourd'hui, s'échange très cher, y compris déjà du vivant des humains, et avec ou sans leur consentement, on pense à tous les trafics d'organes qui ont lieu aujourd'hui à la surface de la planète, et qui ne concernent pas simplement, d'ailleurs, les condamnés à mort chinois, qui sont prêts à vendre, pour que leur famille hérite un petit peu de quelque chose, à vendre la plupart de leurs organes une fois morts, et même que certains soient prélevés de leur vivant, etc. Bon, ça veut dire ça. Autrement dit, quand Heidegger dit que la matière humaine elle-même va devenir une matière échangeable au niveau de ce qu'il appelle l'essence de la technique et qui commande tout cela d'une manière effrénée, au profit de ce qu'il appelle la volonté de volonté, parce que c'est même plus une volonté d'arriver à du pouvoir, c'est au-delà de toute réalité limitée. C'est un cycle infini. Et l'homme lui-même fait partie de l'essence de la technique. Il est lui-même un des objets de l'essence de la technique. Loin d'en être le sujet. Il n'y a plus du tout de subjectivité qui domine tout ça. C'est pour ça que c'est n'est possible, selon Heidegger, qu'en pensant ce dont il s'agit. Il faut commencer par penser. Et alors, une manière de continuer à penser, c'est, je ne parlerai pas aujourd'hui dans les essais et conférences de ce premier texte qui s'appelle, enfin, l'essence. Il faudrait arrêter de traduire essence par Wesen par essence, parce que c'est encore un mot de la métaphysique. Il ne s'agit pas d'une essence, hein. Il s'agit du... Alors, je ne sais plus comment il a traduit dans les Beiträger récemment, dans les apports, François Fédier, le déferlement de la pleine essence. Mais alors, il ajoute déferlement, mais il maintient essence. Ce qui est un petit peu gênant, il faudrait dire le plein régime d'être. Le plein régime d'être de quelque chose. Le plein régime. Alors, la technique au sens où Heidegger la prend, au sens métaphysique où Heidegger la prend, c'est, elle est aujourd'hui dans son plein régime. Elle bat son plein. Elle bat son plein. La question étant, comment dégager une autre pensée que celle qui est complètement asservie par le plein régime de la technique? Ça, c'est une question qui est absolument d'actualité. Et aujourd'hui, mon sujet étant qu'est-ce qu'un lieu saint, c'est une autre façon... En visant un thème particulier, que je vais essayer de voir comment prolonger ce que j'avais dit la dernière fois. Le troisième livre que j'ai apporté, je peux m'en apporter beaucoup quand même, hein, faut que je me modère en venant de Reims par le train, c'est le cours sur Parménide, auquel je crois que j'avais déjà fait allusion, mais qui est un texte tout à fait essentiel. C'est un des plus beaux cours de Heidegger, le cours sur Parménide, hein, qui est le cours de, c'est un cours de 42-43. Donc exactement au moment où Heidegger est en train de rédiger les derniers textes inédits, les derniers carnets, dont les premiers viennent d'être pour la première fois traduits en français, les Beiträger, sous le titre Apport à la philosophie, mais le vrai titre est le sous-titre. Le vrai titre, c'est Vom Ereignis, à partir de l'avenance. De l'avenance, c'est-à-dire en venant de l'avenance, en pensant à partir de l'avenance, et non plus à partir de la métaphysique. C'est-à-dire, de l'avenance de quoi? Ben, l'avenance, l'arrivée de l'être, en pensant à partir de l'être lui-même, et non plus à partir de l'étang, dans lequel l'être se voile, ne se donne jamais que voilé et en retrait. Alors, qu'est-ce qu'un lieu saint? C'est une question tout à fait d'actualité. Même si, au fond, c'est une question que déjà, dans ses écrits sur l'art, notamment, Malraux avait longuement évoquée. On pourrait partir de quelque chose qui est une constatation empirique, à savoir qu'il existe aujourd'hui encore, à la surface de la Terre, dans plusieurs civilisations qui sont encore des civilisations dignes de ce nom. Alors que je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse continuer d'appeler civilisation ce qui a été la civilisation européenne. Je pense que là, on est à un point crucial, c'est-à-dire y a-t-il encore une civilisation européenne? Je pense que toutes les questions juridiques ont été soulevées au moment de la rédaction du préambule de la Constitution européenne. Ce n'est pas un hasard si ça a porté sur la mention ou pas des religions. Alors, évidemment, ça montre bien que si on ne doit pas parler de la religion, dans la mesure où la religion, en l'occurrence les religions chrétiennes, catholicisme et protestantisme ont été des éléments essentiels de la constitution de ce qui s'appelle l'Europe, y compris de l'Europe politique. Il suffit de voyager un petit peu dans l'Europe centrale, en Hongrie, ensuite en Tchécoslovaquie, etc., pour voir que ce qui a rendu possible ces civilisations-là, c'est pas simplement les grandes monarchies, oui, la monarchie d'Habsbourg, mais c'est aussi, même sous forme conflictuelle, les deux grands christianismes qui sont le catholicisme et le protestantisme. Il n'y a pas d'Europe centrale ni l'Europe orientale sans ces dimensions. Et pour ce qui est de la Russie, bien entendu, alors le christianisme orthodoxe. Et donc tout ça, ça fait partie de l'histoire de l'Europe. Et c'est en ce sens que, évidemment, nous sommes aussi européens que les Hongrois, que les Tchèques, que les Slovaques, et que les Polonais et que les Russes. Alors si on nommait cela, ça veut dire que c'est un crime contre la mémoire. Tout simplement, c'est une absurdité. Alors au nom d'une conception fanatique de la laïcité, on va dire « Ben non, faut plus parler de religion, c'est du passé. Du passé, faisons table rase, on connaît le truc, hein. Du passé, faisons table rase, nous allons construire l'Europe nouvelle sur une base laïque. » Alors donc la mémoire, ben non, pas de mémoire, donc on parlera pas du christianisme parce que c'est une chose, une vieille chose du passé, ça n'existe plus. Ah bon, donc on va donc pas du tout parler non plus des monarchies. Alors qu'évidemment, l'Europe s'est construite à travers les grandes monarchies. Et à travers aussi la question de l'Empire. Bon. Bref, ne passons pas là-dessus, c'est important. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une civilisation européenne. Je ne suis pas sûr du tout. Je crois que ce qui s'est appelé civilisation européenne, c'est en train de se dissoudre. Et c'est pour ça qu'il est absurde d'imaginer qu'on va construire l'Europe nouvelle sur une abolition du passé, sur une négation de la mémoire. C'est du négationnisme, purement et simplement. Et donc sur des principes abstraits qui seraient ceux de la Révolution française, par exemple. Hein, là où on sait très bien à quel point beaucoup de pays d'Europe ont connu une épouvantable saignée au moment des guerres napoléoniennes. À ce moment-là, on peut se dire que si ça date de... Quels souvenirs les Allemands ont-ils des armées napoléoniennes? Hein, quels souvenirs l'Europe centrale a-t-elle du passage des armées napoléoniennes? Quels souvenirs les Russes ont-ils du passage de l'entrée des troupes napoléoniennes sur leur territoire et jusqu'à Moscou? Hein, là, on est en pleine question sur ce que c'est que l'identité de l'Europe et on est obligé de relire un peu du côté russe. Ben, on relit Guerre et paix de Tolstoï. Là, on voit bien que c'est là que des choses définitives se sont passées, que quand ils ont vu réarriver le Führer avec ses troupes, ils se sont dit, ben, ça y est, ça recommence. Alors, il existe à la surface de la Terre dans plusieurs civilisations. Et je pense que certaines civilisations qui survivent, sont survivantes. Alors, il y en a quelques-unes qu'on peut nommer. En Inde, pour l'instant. En Chine, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, en Inde, dans certains pays d'Asie, où la religion bouddhiste fait partie encore de l'existence des humains, l'existence fondamentale des humains, et peut-être au Proche-Orient aussi, au Proche-Orient et dans les pays arabo-persans, où il est évident qu'il n'y a pas un retour de la religion comme si elle n'existait plus. Il y a quelque chose qui s'appelle une façon de s'accrocher, soit désespérément, soit de manière terrorisante, sous forme de terreur, à quelque chose qui a constitué l'identité civilisationnelle de ces pays-là, et qui s'appelle l'islam. Donc là, je ne rentre pas sur le débat sur islam instrumenté politiquement, islam mystique, etc. Mais là, je renvoie aux travaux magnifiques de mon ami Christian Jambet là-dessus. Mais ce sont des régions dans lesquelles ces civilisations qui ont été bâties, notamment en y incluant une dimension spirituelle, je dirais plutôt spirituelle d'ailleurs, religieuse, mais surtout spirituelle, il existe encore des lieux saints. Voilà. Dans ces pays-là, il existe des lieux saints. En Inde, il y a des lieux saints. En Israël, il y a des lieux saints. Dans les pays arabo-musulmans, il y a des lieux saints. Et on sait, j'en parlerai tout à l'heure de Jérusalem, parce que c'est une question cruciale. Il est évident que si on commence par éliminer le facteur religieux, mais je préfère dire spirituel, c'est même pas la peine, on comprendra rien. Il y a donc des lieux saints. Bénarès est un lieu saint. La cathédrale de Chartres est en principe un lieu saint. La cathédrale de Reims aussi, elle l'était en tout cas. Est-ce qu'elle l'est encore pour les visiteurs aujourd'hui? Je n'en sais rien. Alors que faut-il entendre par là? Qu'est-ce que cela suppose qu'on parle de lieu saint? Et à quoi cela fait-il appel? Alors, je vous donne quelques exemples au hasard, mais je commencerai par partir de la civilisation grecque, puisqu'elle nous concerne au premier chef. Là, on peut dire que c'est une civilisation qui appartient au passé, complètement. La civilisation grecque n'existe plus. C'est le temple grec. Le temple grec, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination si on le visite aujourd'hui. Parce que même pour les Grecs d'aujourd'hui, le temple grec, bon, je ne sais pas quel rapport ils ont, mais je ne connais pas de Grecs d'aujourd'hui qui vont rendre des offrandes à Athéna, ou à Poséidon, ou à Apollon, à Delphes. Bon, alors, ça, c'était des lieux saints pour les Grecs, et je vais en parler. Ou, si vous voulez, des temples hindous, ou ce fameux temple Borobudur dont parle beaucoup Malraux, dans la métamorphose des dieux. Ou le temple de Salomon dans la mémoire juive, ou en tout cas Jérusalem, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens, que pour les musulmans. Jérusalem, ville sainte. La Mecque, c'est pour les musulmans, mais quand on dit Jérusalem, ville sainte, et on ajoute souvent trois fois sainte, elle est donc sainte trois fois pour trois religions différentes. Ce qui complique depuis le début, d'ailleurs, son statut. Et ce qui n'a cessé de le compliquer depuis la création de l'État d'Israël. Parce qu'un État, c'est une chose, une religion, c'en est une autre. Il n'y a pas identité entre État, nation et religion. Ou s'il y a fusion de ces trois éléments, ça devient très compliqué. On parle même d'un fleuve sacré. Le Gange est un fleuve sacré pour les hindous, pour les indiens. Qu'est-ce que c'est qu'un temple shintoïste? Je pense notamment à cet épisode de c'est une tétralogie de Mishima dans laquelle il y a un des personnages qui est d'ailleurs comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs? Elle est à la tête d'un couvent. Elle était à la tête d'un couvent shintoïste. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut relire Malraux, La métamorphose des dieux, qui reste un très beau livre. Et puis aussi pour les cathédrales, eh bien le magnifique livre de Georges Duby, Le temps des cathédrales, qui essaie de nous faire comprendre ce qu'ont été jadis les cathédrales, qui ne sont plus que des souvenirs. Parce que nous ne sommes plus des chrétiens du Moyen-Âge, tout simplement. Donc il a fallu, je dirais, toute la foi vive et toute la ferveur de Georges Duby pour essayer de nous faire assister, en quelque sorte, à l'éclosion du temps des cathédrales. À partir de quelque chose qui était un temps d'attente où l'Europe était livrée aux barbares et où par conséquent il n'y avait plus que quelques monastères dans lesquels on protégeait soigneusement les quelques trésors arrachés à toute la tradition de l'ancien christianisme. On enluminait comme ça des manuscrits, des bibles, dans l'attente que tout cela débouche quelque part sur une religion commune qui serait reconnue et qui aurait ses propres édifices. Il faut imaginer quand même, avant le temps des cathédrales, qu'est-ce que c'était que le christianisme. Alors je voudrais partir d'un premier cas qui est le temple grec, pour nous faire comprendre ce que c'est qu'un lieu saint. Parce que ça, on a quand même de quoi y penser. Et notamment, je dirais, plutôt avec Heidegger qu'avec Vernon et Vidal-Naquet, parce que les travaux de Vernon et Vidal-Naquet sont les travaux qui sont orientés vers une conception prédéterminée du progrès de la pensée grecque qui va, je pourrais dire, d'une représentation archaïco-mythique vers quelque chose que eux pensent comme un progrès, c'est-à-dire l'instauration de la démocratie grecque, des cités avec un espace isonomique, comme ils disent. Donc ce qui succède à l'époque archaïque, Disons même à l'époque homérique, c'est-à-dire le monde de la démocratie, de l'égalité, de l'isonomia, etc., le monde d'Athènes en quelque sorte, l'Athènes de Solon et d'après Solon, et ensuite l'Athènes de Périclès qui serait une espèce de sommet où les Grecs auraient inventé ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. Là-dessus, moi je suis prudent parce qu'il me semble que, en tout cas sur la religion, il y a plein de choses intéressantes au niveau documentaire dans les travaux de Vernon et de Vidal-Naquet. Je pense qu'il y en a plus dans ce que dit Détienne, parce que Détienne est plus attaché qu'eux, notamment aux travaux des grands hellénistes germaniques, et notamment à celui qui a écrit un très beau livre sur Dionysos, et puis qui a écrit un livre sur les dieux grecs aussi. C'est le livre sur les dieux grecs qui est préfacé par Détienne. Et donc c'est quelqu'un de très intéressant, Détienne, qui a trouvé beaucoup de choses et qui n'est pas resté dans l'ombre de Vernon et de Vidal-Naquet, ni je dirais dans les a priori de Vernon et Vidal-Naquet. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à mon avis, est beaucoup plus phénoménologue. Et de ce point de vue-là, est beaucoup plus proche des travaux comme... Alors, il n'est pas philosophe, donc il n'a pas l'approche heideggerienne exactement, mais c'est quand même une phénoménologie de la religion grecque, comme celle qu'on peut avoir dans les travaux de Karl Reinhardt, par exemple, sur la tragédie. Alors, qu'est-ce que c'est que le temple grec ? Ben, le temple grec, c'est vrai que ça suppose d'abord la police, P-O-L-I-S, hein, c'est-à-dire ce qu'on traduit en général par cité, mais cité ne dit pas grand-chose. Et dans le cours sur Parménide, page 146, Heidegger nous dit quelque chose de tout à fait essentiel, en s'appuyant d'ailleurs sur une étymologie qui, comme toutes les étymologies, peut être controversée, bien entendu, elle est discutable, mais il s'agit pour lui de faire entendre quelque chose, à savoir que la cité grecque, il ne faut pas la penser d'abord comme une création d'institution, une institution politique au sens que nous donnons aujourd'hui au mot « politique ». Et c'est vrai que moi, je suis malheureux quand je repense aux sottises que nous avions énoncées d'une manière assez fanatique à l'époque du maoïsme. Et nous reprenions à ce moment-là le mot d'ordre de Mao Tse-tung qui était la politique au poste de commandement. Ben, je crois que quand on dit la politique au poste de commandement, on est dans l'errance, on est dans l'errance complète. On est dans l'errance complète, on est dans l'aveuglement. Parce que d'un point de vue plus décisif, qui est celui de la philosophie, ce qui doit être au poste de commandement, ce n'est pas la politique au sens de la décision humaine, c'est la question de l'être. Et tant que la question de l'être est esquivée, eh bien on ne peut pas penser sérieusement ce qu'on appelle la politique. Et en tout cas, sûrement pas ce que les Grecs appelaient « polis ». Car la polis, ça suppose un rapport grec à l'être. Là, je suis tout à fait d'accord avec cette page essentielle de... Heidegger, dans le cours sur Parménide, page 146-147, ça revient à dire, les Grecs n'étaient pas du tout politiques au sens où nous pensons être des politiques. Il faut voir aussi à quel niveau en est venue la politique, ou ce que nous appelons la politique. Ben, ça veut dire justement, qu'est-ce que c'est qu'une politique qui est détachée de la question de l'être ? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une politique qui est complètement asservie, ce que Heidegger appelle l'essence de la technique. Alors on peut dire ça sous la forme, une forme empirique, c'est-à-dire à la politique, elle est au service de la finance internationale. Bien sûr, c'est vrai. Donc vous voyez le côté complètement fantasmatique d'un François Hollande disant « mon ennemi, c'est la finance ». Ça n'a aucun sens, évidemment, de dire ça. Puisque la politique aujourd'hui, tant qu'elle ne change pas, tant qu'elle n'est pas dans une mutation de pensée, elle n'est complètement asservie à la finance sur le plan mondial. Mais évidemment, que ce soit la politique chinoise ou la politique française. Alors il y a des différences parce qu'il y a un parti communiste dur, policier, qui est ennemi des libertés. Mais nous, on dit qu'on est ami des libertés. Moi, je crois que c'est toujours inquiétant quand on parle des libertés, quand on ne parle pas de la liberté. Et alors la liberté en Grèce, ça suppose la question de l'être. C'est pas séparable de la question de l'être. Alors ça veut dire que c'est pas mal qu'il y ait des droits et des devoirs du citoyen. C'est même très important par rapport à la barbarie dans laquelle on risque toujours de sombrer. Mais c'est pas penser la liberté fondamentalement. Alors qu'est-ce que c'est que la police ? Ben, c'est pas politique au sens où on le croit. C'est là-dessus que j'ai vraiment une divergence avec des travaux de Vernon et de Vidal-Naquet qui sont de grands hellénistes incontestablement, dont les travaux sont tout à fait intéressants sur plein de sujets. Mais sur le point central, à savoir les Grecs ont inventé la démocratie au sens moderne du mot, non, non, pas du tout. Alors ce que je dis, c'est la question de l'être, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de cité sans les dieux de la cité. Voilà. Autrement dit, si on ne pose pas la question de qu'est-ce que c'est que les dieux grecs, on ne sait pas ce que c'est que la cité grecque. Toute cité grecque est protégée par ses dieux. Et c'est pour ça que les Grecs, qui étaient comme tout le monde, quand ils allaient faire la guerre contre les barbares, ils se conduisaient comme tous les guerriers, c'est-à-dire ils s'en prenaient tout de suite aux autels et aux temples de l'ennemi. On détruit les autels et les temples de l'ennemi, parce que ces dieux ne sont pas des vrais dieux, il n'y a que les nôtres qui sont des vrais dieux. Voilà, c'est, vous voyez, ça, alors là, c'est pas nouveau, même chez les Grecs, ça existe, hein. Regardez ce qu'ils ont fait à Troie. C'est raconté dans l'Iliade d'Homère, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à souiller les sanctuaires des Troyens, puisqu'on les a vaincus. Puis on est même capable d'accrocher le cadavre d'Hector au char d'Achille et de le traîner dans la boue. Et alors là, attention, là on est en train de faire un crime quand même et on va arrêter Achille dans sa folie, parce que là il est en train de devenir complètement animal, bestial, et ça c'est pas autorisé. Mais détruire les statues des dieux de l'ennemi, bon, c'est courant, ça. Puis en général, on passe tout le monde au fil de l'épée, hommes, femmes et enfants. Donc les guerres, c'est jamais joli, joli, même chez les Grecs. Alors dire qu'ils ont inventé, qu'ils étaient des grands pacifiques qui ont inventé la démocratie, il faut être prudent là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que la cité? Ça suppose les dieux. Alors, le cas d'Athènes est évident. Ça s'appelle Athènes parce que c'est la cité d'Athéna, bien entendu. Ça vous est raconté dans l'Orestie d'Eschyle, comment Athéna préside à la création de la cité d'Athènes. Cité, ça veut dire un dieu ou des dieux. La question de la cité est inséparable de la question des dieux. Et pourquoi? Ben, ça veut dire parce que la cité, elle est le lieu par excellence de rapport entre les hommes et les dieux. Alors c'est complètement absent de notre politique à nous, bien entendu, notre politique. Où sont les dieux? Quelle est la déesse qui protège François Hollande? Personne ne le sait. Quelle est la déesse qui protège Valérie Trierweiler? Chez les Grecs, ce serait ça tout de suite. Ce serait effectivement une guerre à mort parce que Hollande dirait qu'il a agi au nom de la déesse, je ne sais pas laquelle, qui protège la France. Et elle dirait qu'elle a été trahie. Il a trahi la déesse qui la protégeait jusqu'ici comme première dame de France. Et ça donne une guerre civile terrible. C'est ça le vécu grec. C'est-à-dire que tout se passe à partir des dieux dans les rapports entre les hommes et les dieux. Qu'est-ce qui définit un être humain? Qu'est-ce qui définit un être humain? C'est qu'il a un certain rapport aux dieux. C'est qu'il se situe quelque part entre les bêtes et les dieux. C'est un titre d'ailleurs de Vernon, ça. Il se maintient à sa place, c'est ça que veut dire le mot ethos. Ethos en grec qui a donné éthique, c'est se tenir à sa place. Se tenir à sa place dans son rapport à l'être. Et qu'est-ce que c'est que se tenir à sa place dans son rapport à l'être? C'est tenir le milieu entre les bêtes et les dieux. Et par conséquent, un homme qui ne respecte pas les dieux n'est pas un homme. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un homme digne de ce nom. C'est fondamental, ça, quand même. Voyez à quel point on est aujourd'hui sur un continent qui n'a plus rien d'hellénique. Absolument. C'est clair. Je lis ce bref passage, mais très éloquent, de Heidegger. Qu'est-ce que la police? Le mot lui-même nous met sur la voie. Pourvu que nous maintenions sous notre regard la vue essentielle de l'expérience grecque alors l'essence de l'être, c'est pas essence, l'expérience grecque de, je sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, l'expérience grecque de, du plein déploiement de l'être et de la vérité, vue essentielle qui illumine tout. La police est le polos. Le pôle, le lieu autour duquel gravite d'une manière spécifique tout ce qui apparaît aux Grecs comme étant, le pôle est le lieu autour duquel tourne tout étant, de telle sorte que dans le domaine que définit ce lieu se manifeste la tournure que prend l'étant, c'est d'ailleurs tout ce qui est, et ce dont il retourne avec lui. La police est l'essence du lieu. Alors je dis, qu'est-ce qu'un lieu saint ? Réfléchir sur le lieu saint, ça va nous éclairer sur qu'est-ce qu'on peut appeler saint, ou sacré, ou divin, les trois, et par voie de retour, qu'est-ce que c'est qu'un lieu? Qu'est-ce qui est digne d'être appelé un lieu? Hein, Debord rappelait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'agora. S'il y a de la politique, en tout cas une vie politique, ça ne se passe pas sur l'agora. Hein, certainement pas. Aujourd'hui, on sait où ça se passe. Hein, ça se passe dans le secret des cabinets ministériels et après, ça se passe dans les médias. Ça se passe au grand journal de Canal+. Ils y vont tous. Donc, c'est là, c'est pas une agora. C'est pas une agora. La police est l'essence du lieu, ou pour le dire autrement, le site dans lequel se déploie le séjour historique, au sens fort du mot historique, le séjour historique ou historial, destinal, on pourrait dire, le séjour destinal de l'humanité grecque. Comme la police laisse chaque fois le tout de l'étang venir d'une manière ou l'autre dans son adjointement hors du retrait, la police se rapporte de façon essentielle à l'être de l'étang. Entre police et être règne un rapport initial. Entre police et être règne un rapport initial. Et donc, ce que suppose la police se constitue, elle est par elle-même l'invention d'un lieu tel que le rapport de l'homme à l'être puisse trouver son assise. C'est ça qui est digne d'être appelé un lieu. Et ce lieu, ça s'appelle en grec « ethos ». Se tenir dans ce lieu-là, se tenir à ce lieu-là, c'est ça, ethos. Si on se tient hors de ce lieu, alors on est hors de l'éthique. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui éthique. Éthique, c'est un code de bonne conduite. Hein. L'éthique médicale est un code de bonne conduite médicale. Voilà ce que c'est l'éthique médicale. Ça n'a rien à voir avec l'éthos. Allez interroger comme ça les grands chirurgiens, mais quel est votre rapport à l'être? Vous verrez, ils sont très embarrassés pour répondre, parce que ce n'est pas la question qui se pose. C'est qu'est-ce que je m'autorise ou pas en tant que chirurgien, etc. Est-ce que moi-même, je suis d'accord avec des prélèvements d'organes, dans quelles conditions, etc. Est-ce que je suis d'accord pour interrompre à ce qu'on appelle un acharnement thérapeutique? La police est la demeure rassemblée en elle-même de hors-retrait de l'étang. Et le hors-retrait de l'étang, ça s'appelle aletheia en grec. Donc, vous voyez, être, einai, aletheia, qu'on traduit très mal par vérité, c'est le dévoilement. Aletheia, police, les trois sont liés absolument. Et là, pour son interprétation du mot polos, le pôle, et du verbe pelei, Heidegger nous renvoie, et il le traduit d'ailleurs, au premier chœur d'Antigone, qu'il commente par ailleurs dans Introduction à la métaphysique. Certains qui ont fait du grec connaissent ce vers célèbre commenté par Heidegger et à nouveau commenté par Lacan dans son séminaire sur Antigone. Mais curieusement, très logiquement, Lacan fait comme si Heidegger n'avait rien dit avant lui parce qu'il veut essayer de lui trouver quelque chose sur sa base propre. Polata deina, kuden anthropou deinoteron pelei. Pelei, le verbe se termine sur le verbe pelei. Et il traduit. Multiple, le terrible et l'inquiétant. Alors, le terrible et l'inquiétant, c'est Tadeina, et l'inquiétant aussi Tadeina. Rien cependant ne se dresse au-dessus de l'homme de plus terrible et de plus inquiétant. Alors, cela dit, c'est dans un autre texte qui se trouve dans « Chemin qui ne mène nulle part » que Heidegger va développer, non pas cette fois à partir de la cité, parce que, cela dit, le temple suppose la cité. Le temple, c'est le lieu où le culte de la cité va régulièrement se célébrer selon un rituel très précis. On va honorer les dieux de la cité. C'est là que se fonde ce dont il est question sans arrêt dans les tragédies grecques, c'est-à-dire avons-nous été dans le sébeia, qui veut dire la juste révérence vis-à-vis des dieux, ou la sébeia, le manque de révérence vis-à-vis des dieux. Et au fond, ce qu'on appelle l'ubris, qu'on traduit souvent par outrance, l'outrance du héros se traduit par le fait qu'il a manqué à le sébeia, à la bonne observance des lois divines. Antigone est accusé d'avoir été dans une outrance qui l'a mise hors des lois divines. Et elle-même va le reconnaître, elle va l'avouer dans un vers célèbre où elle dit que ce sont ni les dieux d'en haut, les Olympiens, ni les dieux d'en bas qui m'ont commandé à moi mon acte. Et c'est pour ça qu'on va lui dire dans la tragédie qu'elle est coupable d'otadia et qu'elle est autonomos. Autonomos. Alors, on va dire autonomie. Non, c'est-à-dire elle puise sa loi en elle-même seule. Alors que le sébéia, ça veut dire je puise ma loi dans le respect des dieux, dans le rapport aux dieux. C'est une outrance folle d'imaginer qu'on va pouvoir se donner à soi-même sa loi. Et c'est, ça, c'est de cela qu'on accuse Antigone. Et on a raison de l'accuser de ça. Elle passe outre. Et donc, elle reconnaît elle-même. C'est ni les dieux d'en haut, ni les dieux d'en bas qui m'ont soufflé mon acte d'ensevelir mon frère. C'est moi seul. Donc, effectivement, elle est coupable. Aux yeux du grec de cette époque, de la tragédie, elle est coupable. Ce qui ne veut pas dire que Créon n'est pas coupable aussi. Parce qu'il a été au-delà de ce que la loi lui permettait de faire. Et notamment, en condamnant Antigone à mort, en la faisant ensevelir vivante, là aussi, il manifeste un comportement tyrannique, c'est-à-dire un comportement qui est au-dessus des lois, dans un autre sens. Elle est plutôt de côté, elle est dans une espèce de rage animale, bestiale. On va lui dire d'ailleurs, tu es bestiale, tu es agrios, tu n'es pas humaine. Créon, il est humain, mais il ne s'est pas mis sous la protection d'une loi qui l'autorise à faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire aucune loi ne l'autorise à refuser l'ensevelissement du cadavre du frère d'Antigone. Donc lui aussi, il est excessif. Et ils sont renvoyés tous les deux dos à dos. Il n'y a pas de vainqueur dans Antigone. Hein. Il n'y a pas de vainqueur. Alors c'est dans le texte qui s'appelle « L'origine de l'œuvre d'art », qui est un texte qui date de plusieurs époques. Hein. C'est un texte qui a d'abord été, je regarde là, il donne les références de date, c'est très important. Il y a une première, le texte a pour source, la première partie de ce texte que vous avez aujourd'hui dans Chemin, c'est une conférence qui a été faite en novembre 1935 et renouvelée l'année suivante en 1936. Et ensuite, il y a un supplément qui a été écrit en 56. Donc, c'est un texte qu'il a remanié à plusieurs reprises, et pour une raison très simple, c'est que vous en avez l'explication, mais ça, je vous demande de ne pas lire tout de suite. N'allez pas vous jeter dans la lecture des apports à la philosophie, parce que vous allez être complètement égaré par ce texte. Il faut déjà... Pourquoi Heidegger avait dit qu'il ne fallait pas le publier avant que 50 années soient passées après sa mort? C'est parce qu'il pensait qu'il fallait d'abord lire ses cours. Et qu'une fois qu'on était familier de sa pensée explicitée devant des étudiants dans ses cours, on pouvait peut-être à ce moment-là commencer à lire ses textes qui sont écrits pour lui-même, en fait. Qui sont écrits pour lui-même et pour un public ultérieur. Pour un public ultérieur, sans qu'il en soit sûr. Hein. Bon, est-ce qu'il va avoir un public pour lire ses textes? Je n'interdis pas qu'on les publie, mais pas avant 50 ans après ma mort. Et là, ils ont d'abord été publiés en Allemagne, évidemment, et ensuite traduits tout récemment par François Fédier en français. C'est un texte très, très, fou, un texte un peu fou, oui, au sens où c'est pas un texte de sagesse philosophique, c'est un texte dans lequel Heidegger se met à penser pour lui-même, tout seul, il parle à haute voix en quelque sorte là, et c'est extraordinaire à voir, c'est à la fois éblouissant et tout à fait saisissant, c'est vraiment saisissant. Eh bien, vous comprenez, parce que dans l'époque de l'origine de l'œuvre d'art, Heidegger est en train de travailler autour de cette question du rapport entre les hommes et les dieux, en partant du temple grec. Et alors, il a une première ébauche de ce qui va s'appeler plus tard, mais qui est déjà dans les Beiträge. Dans les Beiträge, c'est tranché. Il dit le rapport entre la terre et le monde. La terre qui serait vraiment la terre sur laquelle les hommes habitent en tant qu'hommes, hommes mortels. Et puis « monde », c'est le nom qu'il donne provisoirement à la manière qu'ont les hommes d'instaurer sur la terre quelque chose qui les met en relation avec le ciel et avec les dieux. Et ça, il va l'appeler plus tard, enfin à partir de 36, dans les Beiträge, il appelle ça « Gefirt ». « Gefirt », c'est la croisée. C'est la croisée. La croisée de la terre, du ciel, des hommes, des dieux. Alors, la croisée, elle n'apparaît pas encore dans le texte « L'origine de l'œuvre d'art », mais je dirais, deux ans plus tard, elle est dans les Beiträge déjà. Et donc, « Terre et monde », c'est une première élaboration de ce qui va s'appeler finalement, et c'est la pensée la plus avancée de Heidegger, « ce qui rend possible, une humanité, pardon, c'est-à-dire une civilisation, en fait, hein, c'est que soit instaurée et respectée cette croisée-là, qu'il y ait quelque chose qui vienne dire sous une forme finie, parce que chaque civilisation est finie. Les civilisations, elles naissent et elles meurent. En ce sens-là, il n'y a pas de téléologie chez Heidegger, hein, du tout. C'est sans doute ça aussi qui l'a séparé de toute téléologie religieuse à la fin. C'est que les civilisations naissent, elles meurent, elles sont toutes éminemment respectables, dans la mesure où toutes, elles se définissent à partir d'une définition particulière, singulière, de ce qu'il appelle « kefirt ». Le quadripartite, traduisait Beaufray, le quadrige, si vous voulez, le quadrige, terre, ciel, homme, Dieu. C'est ça qui fait qu'il y a une civilisation. Et puis les civilisations, elles meurent. Elles naissent, elles meurent. Le XXe siècle a été le début de la suppression, on pourrait dire, de l'éradication d'une multitude de civilisations qu'on appelait à l'époque primitive. Hein ? On sait très bien qu'il reste que quelques petits indiens, quelques petites tribus indiennes d'Amazonie, c'est les dernières. Elles ont toutes disparu. Hein, on a commencé à détruire la forêt amazonienne et petit à petit on a détruit quoi ? Eh bien le lieu. Et ça nous fait comprendre aussi ce que c'est qu'un lieu saint. Un lieu saint, ce que Heidegger appelle un lieu, ça s'applique aussi aux tribus amazoniennes. Eh bien on a détruit ces lieux-là et en les détruisant, on a détruit ces formes d'humanité qui se définissaient à partir de ces lieux-là. Hein, on a tous vu cet Indien qui s'appelle Raoni, qui est venu jusque chez nous, d'ailleurs, défendre l'existence même de sa tribu et de ses droits et de son rapport à la terre, mais en même temps de son rapport au Dieu, de son rapport au ciel. C'est très concret, ça. Et là, on a vu quelqu'un de tout seul, chez nous, qui ressemble à rien de ce qu'on connaît et qui a une parole de vérité. Mais est-ce qu'on l'a écouté ? Personne ne l'a écouté, puisque de toute façon, on continue d'exploiter la forêt amazonienne, de construire, de bâtir, de détruire des plantations, etc. Et donc de détruire les dernières tribus amazoniennes, tout en récoltant leur savoir traditionnel. Ça, c'est les instituts pharmaceutiques dans le monde entier qui essaient d'exploiter tout le savoir ancestral de ces tribus, le savoir ancestral de ces tribus, pour enfin fabriquer des gélules, etc. Mais, parce qu'autrement dit, il y avait tout un savoir-là de l'environnement qui consistait pas... Leur médecine à eux, c'est une façon de préserver le rapport entre les hommes, la nature, les dieux, tout ça à la fois. Là où nous n'avons plus rien. Nous sommes en quelque sorte à ciel ouvert, là où il n'y a plus de dieux. Donc il n'y a plus de kefirt. S'il n'y a plus de kefirt, il n'y a plus de civilisation. C'est clair. C'est clair, et le XXe siècle aura été à la fois le siècle des premières grandes éradications, partout en Afrique aussi d'ailleurs, d'habitats traditionnels, de civilisations traditionnelles, souvent multiséculaires, voire millénaires, et puis le siècle où on a vu éclore en Europe même deux régimes de terreur absolue, de conquête absolue, au nom de quoi ? Au nom de quelque chose qui supposait l'éradication de toute spiritualité, bien sûr. Alors, sur deux formes différentes, mais en même temps, la tonalité d'ensemble était la même. Même si aujourd'hui, on voit Poutine essayer d'être très gentil avec le clergé orthodoxe. Mais ça, ce sont des calculs politiciens. Où est la spiritualité russe aujourd'hui ? Hein, je me demande comment est-ce que Dostoïevski, s'il revenait, comment il verrait son pays ? Ou Tolstoï, d'ailleurs, aussi bien. Hein. Bon. Alors, dans l'origine de l'œuvre d'art, il nous parle du temple grec. Mais il nous dit ceci, d'ailleurs, page 44, ça c'est dans l'édition telle, mais je crois qu'ils ont réussi, ah non, ils n'ont peut-être pas réussi pour ce livre-là, à maintenir la pagination de l'édition originale. Un bâtiment, un temple grec, n'est à l'image de rien. Ça, c'est une phrase très forte. Il n'est à l'image de rien. Il est là, simplement, debout dans l'entaille de la vallée. Il renferme en l'entourant la statue du Dieu. Et c'est dans cette retraite qu'à travers le péristyle, il laisse sa présence s'étendre à tout l'enclos sacré. Par le temple, le Dieu peut être présent dans le temple. Cette présence du Dieu est en elle-même le déploiement et la délimitation de l'enceinte en tant que sacré. Alors je pense que ce qui est traduit par sacré, c'est heilig. Le temple et son enceinte ne se perdent pas dans l'indéfini. C'est précisément l'œuvre temple qui dispose et ramène autour d'elle l'unité des voies et des rapports, dans lesquels naissance et mort, malheur et prospérité, victoire et défaite, endurance et ruine, donnent à l'être humain la figure de sa destinée. Et ce qu'il appelle destinée, c'est ça qu'il appelle Geschichte, l'histoire. L'ampleur ouverte de ces rapports dominants, c'est le monde de ce peuple destinal. À partir d'elle et en elle, il se retrouve pour l'accomplissement de sa destinée. Alors destinée, je pense que c'est geschick, mais voyez, là, il y a toute une assonance entre geschick, qui n'a plus le sens vulgaire de destin, destin individuel, mais qui a le sens de entrer dans une histoire collective à partir de laquelle mon existence elle-même a un sens. Mon existence finie d'être mortel a un sens. Alors qu'aujourd'hui, je pense que la question n'est plus du tout évidente. Est-ce que l'existence des humains a un sens ? Là, on est sûr qu'elle en a un, dans la Grèce de ce temps-là. Elle en a forcément un, qui d'ailleurs à s'égarer de ce lieu, à quitter ce lieu à partir duquel ce sens existe, c'est-à-dire ce qu'il appelle de manière très forte l'unité des voies et des rapports dans lesquels naissance et mort, malheur et prospérité, victoire et défaite, endurance et ruine donnent à l'être humain la figure de sa destinée. Geschick. Geschick, c'est un mot qu'il reprend de Hölderlin. Donc derrière tout ça, il y a évidemment la voix de Hölderlin qui se fait entendre chez Heidegger. Sans Hölderlin, sans doute qu'il n'aurait pas développé à ce point, ou peut-être pas si tôt d'ailleurs, cette question, y compris du temple grec et de la civilisation grecque. Il est plus discret, comme je l'ai dit dans L'être et le divin, il est plus discret sur la civilisation chrétienne. Mais là, on peut se passer de lui, parce que la même chose serait à dire sur qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale. C'est la même chose. Ce qu'on appelle le peuple chrétien, la cathédrale, elle rassemble le peuple chrétien en marche vers sa destinée, qui est la résurrection, qui est le jugement dernier et la résurrection. Sans cette évidence que pour un chrétien de l'âge des cathédrales, il est avec tout le peuple chrétien qui rassemble les prêtres, les rois, les travailleurs, les vendangeurs, les chevaliers, tout le monde est en marche vers un même but qui s'appelle la lumière du dernier jour. Et c'est en communiant dans cette certitude qu'on se retrouve dans la cathédrale et qu'on justifie la cathédrale. Et qu'on communie, évidemment, dans le sacrifice du Christ. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de fidèles dans la cathédrale de Reims. Je peux en témoigner, il y a des fidèles, il y a des messes. Mais nous ne sommes plus dans l'évidence du christianisme qui donnait tout son sens à l'édification des cathédrales. Les cathédrales, c'est une autre époque. Cette civilisation-là, elle n'est plus sous cette forme-là, elle n'est plus donnée. Nous avons une certaine mémoire de ça, voilà. Mais c'est appeler ça des lieux de mémoire, quelle horreur. C'est pas un lieu de mémoire, une cathédrale. Pour ceux qui sont encore croyants, c'est le lieu de l'affirmation, j'allais dire presque désespérée, de se rattacher à cette foi-là, tout en sachant que tout autour, tout a changé, et que plus rien autour ne témoigne de ça. C'est ça le truc. Plus rien. Alors qu'on sait très bien que autrefois, bon, autour de la cathédrale, c'est toute la ville qui se rassemble. C'est le foyer de la ville, que dans un village, l'église du village, c'était le foyer du village. C'est fini, c'est plus ça, c'est plus ça. Essence de la technique, planétarisation de l'essence de la technique. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de polos, il n'y a plus de pélée, il n'y a plus de cité, en ce sens. Donc tous les débats autour de l'urbanisme sont des débats creux, tant qu'on ne part pas du fait que ce qui a été perdu, c'est ce lieu, au sens que Heidegger donne ici au mot « lieu ». La cité comme lieu et dont le cœur est le temple. On pouvait dire autrefois, la ville du Moyen-Âge, la ville du XIIe ou du XIVe siècle, c'est celle qui est le lieu même de l'existence commune, laquelle est assurée par un certain rapport entre les hommes et Dieu, et donc le cœur de la ville, c'est la cathédrale, ou c'est l'abbatiale, si vous voulez, ou c'est le couvent. Mais le couvent, c'est différent, parce que ce n'est pas un lieu de rassemblement de tous les fidèles, alors que la cathédrale, si. « C'est le temple qui, par son instance... Ah oui, alors là, instance, ça c'est la traduction de... C'est qui a traduit ça? Je pense que c'est toujours... Ah oui, c'est Brockmeyer. Instance, alors comme il n'est pas sûr de sa traduction, il nous donne une petite note sur instance pour dire j'ai traduit ça par instance, mais je ne suis pas content. C'est ça que ça veut dire les notes. Mais c'est utile de voir ça. C'est la modestie du vrai traducteur. Hein. Alors, c'est page 45, instance, instance d'Achtéen. Instance est toujours instance dans le clair de l'être au milieu des choses, de façon qu'elle soit en même temps et vraiment une instance qui ordonne tout autour d'elle et à partir d'elle. C'est ce, au fond, c'est ce, c'est, d'Achtéen, ça veut dire c'est ce qui se tient là et bien là. En français, on dit ça comme ça. C'est ce qui se tient là et bien là. C'est ça, là, d'Achtéen. C'est le temple qui, par son instance, donne aux choses leur visage et aux hommes la vue sur eux-mêmes. Cette vue reste ouverte aussi longtemps que l'œuvre est œuvre, aussi longtemps que le Dieu ne s'en est pas enfui. Donc là, il fait allusion évidemment aux vers nombreux dans lesquels Hölderlin fait allusion au fait que les dieux, ils ne se sont pas enfuis comme, vous voyez, un fuyard qui s'enfuit, c'est ambigu de traduire ça comme ça. Les dieux nous ont quittés. Les dieux ont déserté, plus exactement ça. Les dieux ont déserté les lieux sacrés. Les dieux ne sont plus là. C'est ce que dit Hölderlin sans arrêt. C'est ça. La grande mélancolie hölderlinienne, c'est je retourne en Grèce et je vois que les temples sont tous écroulés, les temples sont vides. Les dieux n'y sont plus. Les dieux n'y sont plus. Il en est de même pour la statue du dieu que l'agoniste vainqueur lui consacre. Ce n'est pas une représentation du dieu. C'est là qu'Heidegger est très clair. Pas d'anthropomorphisme. L'art grec n'est pas anthropomorphisme, c'est le contraire. Les hommes essaient de s'élever jusqu'au divin. Les hommes essaient de rendre hommage à ce qui est la moins mauvaise représentation de ce qui est au-dessus d'eux et qui s'appelle les dieux. C'est une œuvre qui laisse advenir à la présence le Dieu lui-même et qui est, il met ça en italique dans le texte, et qui est ainsi, ist, hein, elle est ainsi le Dieu lui-même. Donc c'est au fond ce que dit Malraux. À partir du moment où nous regardons les statues grecques comme des statues, comme des œuvres d'art, nous ne sommes plus grecs du tout. Les Grecs ne regardaient pas leurs statues comme des belles œuvres d'art. Pas du tout. Pas du tout. Et si on honorait Phidias, ce n'est pas parce que Phidias était le Picasso de son époque. C'est parce que Phidias était celui qui était capable de faire venir en présence même ce qu'il y avait de plus divin. Par son œuvre. Voilà. Et que son œuvre, elle était digne de figurer au fronton des temples. Alors là, oui. Voilà, donc, je sais pas, vous voyez, quand on est sur l'esplanade de la grande bibliothèque, on ne voit pas les dieux. Les dieux ne sont sûrement pas là, sûrement pas. Ou alors, ils se cachent beaucoup. Je ne vais pas être trop long peut-être sur cette question du temple grec, parce que je voudrais d'abord conclure sur ce que je voulais vous dire sur le monde grec. Qui au fond peut-être le plus éloquent pour savoir ce que c'est qu'un lieu saint. Ça nous donne déjà beaucoup d'idées de ce que c'est qu'un lieu saint. En tout cas, ça permet de rendre hommage à ce que c'était que la piété grecque, en essayant d'oublier ce qui pour moi est quand même très malvenu, c'est-à-dire la manière dont dans le premier christianisme on a considéré la religion grecque. C'est-à-dire comme une religion qu'on a considérée comme païenne. Dès qu'on dit les Grecs étaient des païens, on est dans l'absurdité. Et là, malheureusement, il y a une sorte de communauté de pensée entre le premier christianisme et puis la tradition juive. Il est clair que si on regarde certains textes de Lévinas, lui qui pourtant est philosophe et qui donc rend hommage à plusieurs reprises à la pensée grecque, il est clair qu'il y a... Il y a un barrage, il y a une barrière entre la spiritualité de type talmudique, ou midrashique, et puis le monde grec. Ça, c'est tout à fait clair. Le monde grec, c'est l'aletheia, c'est-à-dire le divin, il vient en présence. Il vient en présence dans, on pourrait dire, dans la clairière de l'être, dans l'éclaircie de l'être. Il se montre. Les dieux grecs sont les apparaissants. Or, la définition du Très-Haut, c'est qu'il n'apparaît pas. Éventuellement, c'est une voix qui commande, ou c'est une voix vers laquelle on se tourne pour implorer qu'elle parle ou qu'elle agisse, mais il n'y a pas de représentation du Dieu. Tu ne feras pas de figure de Dieu. C'est un des 10 commandements de Moïse. bien là, il y a une barrière, incontestablement. De là à dire que les Grecs étaient des païens, c'est-à-dire des gens sans spiritualité, c'est une énormité. C'est l'énormité qu'on dit d'ailleurs, pas tous les pères d'Orient, parce que parmi les pères d'Orient, il y en a certains qui sont tellement grecs, tellement imprégnés de culture grecque. Je pense notamment à mon cher Grégoire de Nice, qu'ils n'auraient jamais pu dire les Grecs, ces horribles païens, qui n'avaient aucune spiritualité. Sûrement pas Grégoire de Nice. Sûrement pas comment on les appelle d'ailleurs, ils sont trois d'ailleurs, ils sont frères et puis amis du frère, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice. Eh bien, c'est évidemment quand on est déjà dans la dégénérescence vis-à-vis du grec, à l'époque de Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin qui se met à dire dans la Cité de Dieu, « Oh, regardez, le monde grec, c'est des idoles, ils croient aux idoles. » Ça, c'est le grand mot terrible, ils croient aux idoles. Alors, cela dit, c'est une question très grave, la question des idoles, surtout si on est dans le contexte hébraïque, d'accord ? Mais c'est bien, je dirais, la preuve d'un maintien d'un point de vue hébraïque dans le premier christianisme, qui fait qu'on a dit, oh, les Grecs sont des païens. Ce n'est pas des gens bien. Nous avons la vraie religion. Dès quelqu'un a dit, moi, j'ai la vraie religion, c'est extrêmement inquiétant. Et d'ailleurs, ça continue avec l'islam aussi, hein, le soupçon que cette histoire de l'incarnation, oh là là, c'est vilain, tout ça, c'est affreux, c'est de l'idolâtrie. Alors, je voulais conclure quand même ce que j'ai dit là-dessus, sur ce que dit, et je vais être bref là-dessus, ce que dit Heidegger dans le cours sur Parménide. C'est une invitation que je vous fais de lire ce magnifique cours sur Parménide, qui n'est pas difficile à lire, hein. Il n'est pas d'une complexité redoutable. Justement, tout ce qui est court chez Heidegger, ayant été dans un premier temps parlé devant des étudiants, Heidegger fait l'effort d'être, pas comme quand il pense tout seul pour lui-même, fait l'effort d'être explicite, le plus explicite possible. Il n'y a pas de difficulté particulière. C'est quand il développe tout autour de la piété grecque, qui tourne autour de deux termes. Alors, je n'ai pas de tableau pour les écrire. C'est deinon, qu'on peut transcrire phonétiquement, D-E-I-N-O-N. Deinon, c'est un mot qui est très important dans toute la tragédie grecque. Deinon, c'est tout ce qui est étrange, inquiétant et étrange, qui nous sort de l'espace ordinaire. Et il y a un autre mot qui est aidos, A-I-D, O accent circonflexe, S, aidos. On traduit souvent ça par pudeur. C'est pas la pudeur, enfin, ça a à voir, mais aidos, c'est le fait d'avoir de la révérence pour le Dieu. On se tient à quelque distance. On fait trois pas en arrière devant le Dieu. Vous voyez, dès qu'on est en présence du divin, du Dieu, on fait trois pas en arrière. C'est ça, eidos. Et là encore, l'hubris, ça consiste à vouloir aller affronter directement le Dieu. Ça, c'est la folie du mortel. Il y a toutes les remarques de Hölderlin sur ces traductions d'Œdipe et Antigone tournent autour de ça. La folie qui consiste à vouloir affronter directement le Dieu. Ça, c'est la catastrophe pour l'homme, parce qu'il va s'écrouler, il va s'effondrer. Non, eidos. Le cœur de la piété grecque, c'est on est dans la révérence, que j'appelais tout à l'heure la révérence, c'est-à-dire on s'incline et puis on reste en retrait. On reste en retrait. Et ça, je dirais que ce n'est pas spécialement grec. C'est probablement le signe de tout rapport humain, dans à peu près toutes les civilisations, vis-à-vis de ce que chacune de ces civilisations appelle divin ou saint. Devant le divin ou le saint, eh bien, on se prosterne et on se retient. On s'arrête. Et un lieu saint, c'est notamment ça. C'est un lieu vers lequel on n'approche qu'avec prudence, avec humilité et en retrait. C'est tout ce qui va à l'encontre du comportement de l'homme contemporain, qui se précipite sur pour prendre, exploiter, etc. Vous voyez ? Pour en faire un stock intéressant. Non, là, on s'arrête. Il y a un coup d'arrêt. Devant le saint, le sacré ou le divin, on s'arrête. Il y a un cran d'arrêt. Et puis, on est dans quoi? On est dans le respect et, j'allais dire, la contemplation, c'est pas très clair. Ce que nous dit dans le cours sur Parménide, c'est « Les dieux sont ceux qui apparaissent si nous les laissons venir jusqu'à nous. » Pour les laisser venir jusqu'à nous, il faut justement cette enceinte et il faut que nous ayons la disposition, l'allure, la gestuelle qui permet aux dieux de bien vouloir venir jusqu'à nous. Et c'est la même chose dans toute civilisation spirituelle, je dirais. Hein, on n'approche pas le Dieu comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'un des signes, c'est la prière. Mais qu'est-ce que c'est qu'une prière? C'est se mettre dans un certain état de révérence, de méditation, d'interruption de la vie courante. On fait silence et on se met dans la disposition où le divin peut venir. C'est ça la prière, c'est pas autre chose. Dans n'importe quelle culture spirituelle, je pense que c'est ça qu'on appellera la prière. Et le lieu saint, c'est le lieu par excellence où on peut venir se mettre dans une attitude de prière en face du Dieu qui va peut-être consentir à venir. Alors ça, c'est tout à fait étonnant aujourd'hui, je dirais, pour la laïcité dominante ambiante, parce que ça suppose une attitude millénaire de l'être humain qui est en train de disparaître complètement de notre univers. C'est évident. C'est évident. Sauf que peut-être dans certains pays où ça se maintient par des compartimentements très violents. Parce que je me demande, par exemple, quand on voit les Japonais, la manière dont il y a encore, je ne sais pas si ça a changé, mais la gestuelle à l'intérieur de la maison, et puis le rapport au temple shintoïste, et puis quand on les voit se précipiter comme des grappes humaines entassées dans leur métro, on se dit, ben, c'est une humanité coupée en deux. Parce que d'un côté, elle est encore civilisée, de l'autre côté, c'est un stock humain qu'on entasse dans des machines. Et c'est tout ce qu'on est tous en train de devenir, et la seule manière de ne pas céder, c'est de maintenir par un cloisonnement précis cette espèce, ce que j'appellerais une ère de liberté et une ère de méditation. Et le silence, parce que ce qui est en train de disparaître complètement de notre civilisation, c'est le silence. Il est évident que toutes les machineries qu'on utilise, téléphone portable, etc., les tweets, etc., la télévision, tout ça est fait pour qu'il y ait du bruit en permanence. Alors s'il y a du bruit, il n'y a pas de divin. S'il y a du bruit, le Dieu ne viendra pas. Voyez ? Alors, je ne dis pas plus, je ne vais pas non plus être trop long, parce qu'on s'arrête à 14 heures, nous sommes bien d'accord. Hein ? Le temps passe, le temps passe. Mais déjà, ça me permet d'improviser, de ne pas dire tout ce que j'ai prévu. J'avais fait ça, cerise, ça s'est très bien passé. Donc, je n'en dis pas plus. Il dit, les dieux sont ceux qui apparaissent, mais les dieux sont ceux qui nous regardent. Les dieux sont ceux qui regardent depuis l'inhabituel. Depuis ce qui est hors de l'habituel. Les dieux regardent d'ailleurs à l'intérieur de notre monde. Et nous avons à affronter le regard des dieux qui sont au-delà de notre monde, par définition. Alors on vous dira transcendant, c'est un mot un peu savant qui vient du Moyen-Âge, transcendant. Mais le propre du dieu, c'est ça, c'est qu'il vient nous inquiéter parce qu'il regarde de l'extérieur de notre monde à l'intérieur de notre monde. Il nous regarde. Et au fond, prier, ça veut dire accepter momentanément, dans ce petit espace préservé, silencieux, de révérence, de silence, de se laisser regarder par Dieu. Alors, un petit mot avant de... Je vais aller vers la conclusion, gentiment, doucement. Je dirais qu'il y a quelque chose de plus dans le christianisme, sans doute, dans la mesure où le christianisme, c'est un messianisme. Et que le messianisme, mais je ne développe pas ça, c'est une indication. Le messianisme, c'est quelque chose de complètement étranger à la pensée grecque, ça c'est sûr. Parce que les dieux sont de toujours. Donc dès qu'on est dans le monde du divin, on est dans le monde du toujours, toujours déjà là. Toujours déjà là, comme aurait dit Derrida, c'était une expression qu'il aimait bien. Toujours déjà là. Dans le christianisme, il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il y a une entrée dans l'historicité. Et donc, il y a une espèce de croisement, tout à fait étrange pour les Grecs, entre ce qu'on peut appeler le temporel et le surnaturel. Il y a une histoire des hommes, elle se passe sur Terre, Et en même temps, cette histoire, elle croise constamment, elle est constamment visitée par des assauts de surnaturel, par des visitations surnaturelles, à l'intérieur même de l'histoire, et qui changent l'histoire. Ça, c'est toute l'histoire du christianisme. Mais c'est avant le christianisme, évidemment, c'est toute l'histoire juive. C'est toute la Bible juive, c'est toute la Bible hébraïque, que Dieu est constamment en train de se manifester au sein de l'histoire pour infléchir l'histoire. De telle sorte qu'à la fin des temps, mais la fin des temps, il ne faut jamais la penser comme le dernier moment sur une ligne horizontale. La fin des temps, ça n'a rien à voir avec une horizontalité. La fin des temps, c'est le moment où tout sera révélé. Si on le pense comme ça, on ne le pense pas horizontalement. C'est la dernière étape, vous voyez, la dernière étape du Tour de France, c'est l'arrivée à Paris sur les Champs-Élysées. Alors, ce n'est pas ça, la fin des temps. La fin des temps, c'est le moment où tout ce qui était en train d'arriver sera enfin complètement accompli. Et que, comme dit saint Paul, nous verrons Dieu face à face et nous nous verrons ce jour-là nous-mêmes comme il nous voit lui déjà, c'est-à-dire sans ombre. Nous nous verrons nous-mêmes comme lui-même nous voit. Eh bien, ce moment, c'est le moment où tout sera révélé. On peut appeler ça une fin de l'histoire, mais c'est pas bon, ça c'est à la manière de Hegel. Fin de l'histoire, c'est les Champs-Élysées. Non. Il faut repenser complètement le temps. Et il y a une pensée du temps dans le christianisme qui est une pensée du temps messianique. Là, je vous renvoie au petit livre de... comment s'appelle-t-il ? Le petit livre de... sur le petit séminaire sur saint Paul d'Agamben, qui est très bien là-dessus, sur qu'est-ce que c'est que la temporalité juive. Il a tout à fait raison. C'est de là que sort la temporalité chrétienne, malgré tout. Sans cette temporalité-là, il n'y a pas de saint Paul, il n'y a pas les évangiles, il n'y a pas de christianisme. Donc c'est messianisme, et un messianisme... alors, ça me permet de dire un mot sur Jérusalem, mais si je dis un mot sur Jérusalem en quelques minutes, ça a l'air ridicule quand même. Mais il est évident, je voulais simplement expliquer ce que j'ai simplement annoncé tout à l'heure. On voit bien que se croisent ici deux dimensions, et qu'il est très difficile de prendre parti sur cette question-là, parce que déjà, on voit que de toute façon, Jérusalem... est une cité qui, en tant que cité sainte, en tant que ville sainte et trois fois sainte, est sainte pour les fidèles de trois religions. Mais la difficulté, c'est évidemment une revendication qui n'est pas spirituelle, ou qui l'est, mais c'est à discuter évidemment du point de vue israélien, c'est qu'elle soit en même temps la capitale de l'État d'Israël. Alors ça devient très compliqué si c'est la capitale de l'État d'Israël, donc elle n'est plus une ville sainte. Elle est deux choses complètement hétérogènes. Donc je ne sais pas comment ça pourrait cohabiter. Enfin, en tout cas, pour l'instant, les gouvernements israéliens successifs nous disent « Jérusalem, capitale de l'État d'Israël ». D'accord ? Mais alors vous êtes bien obligé de vous accommoder du fait que vers Jérusalem viennent régulièrement des musulmans, pas seulement des juifs, mais aussi des musulmans et aussi des chrétiens. Puisque pour les chrétiens, dont je suis, c'est le tombeau du Christ. Ah oui, alors donc ça sera une sorte de musée, on va dire c'est un musée. Mais non, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a aussi la mosquée d'Omar. Et la mosquée d'Omar, c'est un lieu sacré pour les musulmans. Autrement dit, ça veut dire que, est-ce qu'on décide que dans ce cas précis, il y a quelque chose qui prime, et qui est, Jérusalem est une ville sainte. C'est ce qui avait été décidé d'ailleurs, dès le début de la création de l'État d'Israël. Jérusalem est ville sainte. Il faut regarder l'histoire. Et donc elle est protégée. Elle est protégée, on avait nommé le comte Bernadotte à l'époque, les Nations Unies avaient nommé le comte Bernadotte, qui a été assassiné d'ailleurs, bon, pour dire, témoigner du fait que cette ville, elle est sous la surveillance des trois religions. Autrement dit, il y a primat du divin et du sacré sur toute autre considération temporelle, politique, étatique. Ou bien, alors on dit, non, c'est un à côté, c'est une curiosité, mais nous avons décidé que c'est une capitale administrative, c'est la capitale de l'État d'Israël, qui est l'État des Juifs. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire que l'État d'Israël, c'est l'État des Juifs, puisqu'il y a des Arabes israéliens? Donc, vous voyez à quel point tout ça est d'une complexité redoutable, et que la seule manière de clarifier peut-être, c'est de se mettre autour d'une table et de dire comment nous allons penser de manière originale, inédite, l'articulation entre une revendication de type étatique, capitale d'un État, et puis une revendication spirituelle qui concerne trois religions dans le monde, donc des millions d'humains dans le monde. Voilà, donc les discussions, elles sont pas closes, loin de là, vous savez bien. Donc tout ça devient très compliqué. En tout cas, là-dessus, je vous signale qu'il y a, dans les écrits de Massignon en deux tomes qui ont été collectés chez Lafont par Christian Jambet, vous avez tout l'ensemble des textes de Massignon sur la question d'Israël, puisque lui s'en est occupé au moment de la création de l'État d'Israël. Et on voit la divergence de point de vue entre Massignon qui disait farouchement, comme le disait d'ailleurs à l'époque Martin Buber et Scholem, c'est-à-dire il faut absolument que l'État d'Israël, la politique israélienne, soit guidée par l'idée d'une entente entre les Arabes et les Juifs. Sinon, nous sommes fichus. Il faut absolument maintenir ça. Et c'était le point de vue de Massignon et de celui qui était le maire de Jérusalem à l'époque, qui était un des amis de Massignon. Donc, il faut absolument préserver le statut exceptionnel de Jérusalem. Ça ne peut pas être une ville comme les autres, c'est une ville sainte. Et il faut voir, sur le plan international, comment nous allons préserver le statut de ville sainte de Jérusalem. Une ville sainte, c'est une ville qui n'appartient à personne. Elle appartient à Dieu. En l'occurrence, elle appartient à Dieu tel que le nomment trois religions qui sont les trois monothéismes. Mais elle n'appartient à personne. Ou alors on dit que c'est une ville qui appartient aux Juifs, mais alors là, c'est un point de suspension. Alors, je voudrais conclure avec en évoquant deux questions qui sont... Alors je voulais dire simplement qu'il y avait le point de vue de Massignon, qui était, non, il ne faut pas remettre les clés du tombeau du Christ aux Juifs, parce que là, ça veut dire qu'on confond les choses. Et alors que c'était au contraire le point de vue de Claudel. Et il y a eu à l'époque une empoignade assez sévère entre Claudel, qui passait son temps à dire que Massignon rêvait complètement, c'était un fou dangereux, et puis Massignon, qui, je crois, avait un point de vue politique quand même peut-être plus juste, en tout cas plus fin, plus subtil et plus lucide que celui de Claudel. Mais il y avait donc là-dessus, c'était pas n'importe qui, vous voyez, il y a différent entre Claudel et Massignon sur la question de Jérusalem, et sur la question de qui va détenir les clés du tombeau du Christ. Il faut donner ces clés-là à l'État d'Israël. Alors voilà, mais qu'est-ce que l'État d'Israël? Bref, ces deux notions, c'est la notion de sacrifice et c'est la notion de volonté de puissance. Sur le sacrifice, c'est une notion très difficile, la notion de sacrifice. Elle est rarement clarifiée. Le sacrifice, ça veut dire effectivement remettre quelque chose de soi à l'autre avec un grand A. Ça veut dire payer d'une partie de soi-même pour avoir accès à la reconnaissance de l'autre. Alors, c'est vrai que dans le cas de... le seul exemple que Heidegger donne, parce qu'apparemment il ne s'intéresse pas ou il ne veut pas s'intéresser de près à d'autres exemples que la religion grecque ou la spiritualité des Grecs, mais on peut prendre des exemples dans la spiritualité juive et dans la spiritualité chrétienne. Dans la spiritualité grecque, le sacrifice, c'est une offrande. C'est notamment une libation. Il y a des prières, il y a des chants, mais c'est notamment une libation. Ça, c'est ce que vous trouvez longuement développé dans un autre texte d'essai et conférence, qui est le texte sur la chose. Le texte qui s'appelle « La chose », « Das Ding ». Qu'est-ce que c'est que la chose? Qu'est-ce que c'est qu'une libation? C'est ce qui permet momentanément d'établir une continuité, justement pas une solution de continuité, une continuité, une communication entre le monde des humains et le monde divin. Le monde des humains se sépare de quelque chose pour l'offrir au Dieu. Et par là, il réaffirme, pourrait-on dire, de manière exemplaire, sa finitude par rapport au monde des dieux et son allégeance au monde des dieux. Sacrifier quelque chose, ça veut dire, dans le langage de Georges Bataille, par exemple, rompre avec le monde de l'utilité, qui est le monde ordinaire, on dirait aujourd'hui le monde de l'efficacité, pour faire un présent gratuit à Dieu. Quel est le signe, l'emblème du sacrifice, c'est la gratuité. La gratuité de quelque chose qui interrompt le cours ordinaire de la communication marchande, de la communication utile, de la rationalité utile. Quitte d'ailleurs à offrir aux dieux quelque chose d'unique, d'irremplaçable, qui est une victime humaine. Ça, c'était le cas des sacrifices humains dans beaucoup de religions, après tout. Comme ce qu'on peut savoir de la religion inca, par exemple, hein, ou aztèque. Donc, je ne m'étends pas là-dessus, mais cette question du sacrifice est une question très importante. Parce que elle suppose déjà, on pourrait dire, une idée liée à la sainteté, qui est l'idée de pureté. On ne va pas offrir quelque chose qui est impur. On va à la fois offrir quelque chose qui est hors du circuit de l'utilité, et on va manifester, au fond, la gratuité d'un don. C'est un don gratuit. Quitte d'ailleurs à ce que, de manière extrême, on s'offre soi-même en sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice humain, ce n'est pas de la barbarie, ça. Je prends l'exemple de l'élection, ça m'a toujours beaucoup frappé et touché, c'est l'élection des grands prophètes bibliques. Ça leur tombe dessus d'un seul coup, ils sont appelés. Donc il y a aussi dans l'idée de spiritualité, l'idée d'être appelé, l'idée qu'il y a un appel, on est appelé à quelque chose. Et souvent, ce sont des gens très jeunes, d'ailleurs, des gardiens de troupeaux qui sont mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant, dit Jérémie. C'est dans la vocation de Jérémie. Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Comment puis-je être celui qui va dire ta parole, etc. Et puis non, Dieu confirme. Et donc, ça sera la vocation de Jérémie. Et donc, ça veut dire que c'est Jérémie tout entier qui va s'offrir. Et c'est vrai que ce n'est pas une vocation facile, quitte à aller jusqu'au sacrifice de la vie suprême, parce que le prophète, il court de grands dangers. Il peut même être mis à mort, le prophète. On a de nombreux exemples chez les prophètes bibliques. C'est le cas de Jérémie, d'après ce qu'on suppose, d'ailleurs. Hein ? Eh bien, c'est un don de soi-même entier. C'est un don de soi-même entier. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que la forme extrême de la prière, c'est de s'en remettre à Dieu, ça veut dire c'est se remettre aussi soi-même dans les mains de Dieu. Se remettre soi-même, alors avec ses imperfections, mais en espérant être purifié, d'où le fait que dans de nombreux rituels de prière, il y a des rituels de purification. Et là, on bute sur une figure qui n'était pas une figure grecque non plus, encore une fois, qui est la figure du Messie. Le Messie, ce n'est pas simplement celui qui va incarner la fin des temps, c'est aussi, enfin dans le cas du Christ en tout cas, c'est aussi celui qui prend sur lui la faute humaine par excellence, pour en quelque sorte délivrer l'humanité entière de sa faute. Donc c'est lui-même qui s'offre en sacrifice. Alors ça, c'est une idée, évidemment, une idée qui est troublante, bien entendu. Qu'est-ce que c'est qu'une figure divine qui s'offre elle-même en sacrifice ? Et en sacrifice au nom du Père. C'est une énigme. Moi, j'ai essayé de travailler sur cette énigme dans L'être et le divin, dans mon livre L'être et le divin, parce que c'est toujours au nom d'une figure qui est au-delà de tout, qui est une figure non visible, la figure du Père, en l'occurrence, que le Christ, censé être le Fils envoyé par le Père, se sacrifie pour l'humanité. Alors ça, est-ce que c'est une figure totalement inédite dans la tradition juive ? Je ne le sais pas, je ne me sens pas compétent pour trancher, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une novation, me semble-t-il, dans la mesure où la figure messianique, c'est la figure de celui qui annonce l'entrée dans une nouvelle ère, simplement. Dans la tradition messianique hébraïque, dans la tradition chrétienne, c'est celui qui coupe l'histoire en deux. C'est-à-dire, l'histoire humaine jusqu'au Christ, et puis il y a l'histoire humaine à partir du Christ. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, dans le calendrier planétaire d'aujourd'hui, on continue de compter à partir de l'avenue du Christ, au fond. Même dans les parties de la planète qui n'ont pas de rapport direct avec le christianisme ou dominant du tout, mais on est en 2014 à partir de la naissance du Christ. Donc c'est quand même étonnant que dans ce monde où tout se défait, on maintienne obstinément ce calendrier. Alors, à moins que dans les pays musulmans, ils comptent en mois lunaires, c'est possible, hein, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, nous continuons d'être dans un calendrier qui est le calendrier de la naissance du Christ. C'est assez frappant quand même, hein. Et quant à la volonté de puissance, je termine sur la volonté de puissance. Ce que veut dire cette idée du lieu saint. Tout à l'heure, je disais, c'est le lieu dans lequel on se met dans une position de silence, d'interruption de la vie courante, de l'interruption des soucis superficiels de la vie courante, des obsessions de la vie courante, qui sont aussi des obsessions liées au calcul, à l'utilité, à la raison utile, comme disait Bataille, c'est-à-dire au profit, etc. On est dans une espèce d'espace gratuit, un espace de donation, c'est ce que je viens de dire à propos du sacrifice, un espace où on se donne soi-même à quelque chose d'invisible, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle les dieux, et dont on attend que cet invisible vienne jusqu'à nous. D'où le fait qu'on a aménagé autour de nous un espace, où il est déjà constitué d'ailleurs, et qu'à la suite d'un certain rituel, on a fait silence pour permettre au divin de venir jusqu'à nous. Eh bien, ça veut dire qu'en même temps, on a délaissé complètement, on a laissé à la porte cette malédiction que niche appelle la volonté de puissance. Ben, lui, ce n'est pas une malédiction, pour moi, ça l'est. Et c'est ce que dit Heidegger dans sa lecture de Nietzsche. Cette malédiction qu'est la volonté de puissance, que Heidegger appelle, après Nietzsche, la volonté de volonté, cette volonté de volonté qui nous amène jusqu'à la perdition, jusqu'à l'oubli de tout ce qui était jusqu'à présent une civilisation, jusqu'à l'oubli définitif de tout ce qui peut être divin, sacré ou saint, et y compris à l'effacement de tout lieu saint. Alors, il y a une chose précise, l'effacement des lieux saints. Qu'est-ce que c'était que les églises jusqu'à présent, les églises catholiques en France? C'était, depuis le Moyen-Âge, des lieux refuges. Il y a un très beau texte dans les lectures talmudiques de Lévinas sur les villes refuges. Dans la Bible, il est prévu qu'il y a des villes refuges, où si un condamné ou un meurtrier se réfugie, on ne peut pas le poursuivre. Il se remet entre les mains de Dieu, mais dans cette ville-là, il est protégé. Eh bien, les églises, à plus forte raison les cathédrales depuis le Moyen-Âge, étaient des lieux d'asile. Tous ceux qui se réfugiaient dans une église, étaient protégés. Aucune force humaine ne pouvait venir les chercher. Alors c'est fini, il y a eu l'occupation de Saint-Bernard, etc. Il n'y a plus de droit d'asile. De même que les universités, depuis le Moyen-Âge aussi, c'était des lieux dans lesquels le pouvoir civil ne pouvait pas pénétrer. Eh bien, c'est fini. Les églises ne sont plus des lieux d'asile. Il n'y a plus de terres d'asile. On parle beaucoup de terres d'asile. Est-ce qu'il y a encore des terres d'asile? Voyez, et les terres d'asile, un lieu saint, c'est aussi une terre d'asile. Parce que c'est le lieu aussi où on va déposer la volonté de puissance, y compris la puissance publique. Les flics n'ont rien à faire dans une église. Rien. Eh bien, si, maintenant, ils peuvent. Donc, il n'y a plus de lieu refuge du tout. Parce qu'il n'y a plus de lieu saint. Un lieu saint, c'est un lieu dans lequel on ne va pas pouvoir vous arracher. Vous y restez, vous êtes entre les mains de Dieu. Évidemment, s'il n'y a plus de Dieu, c'est réglé, c'est facile, on est dans la laïcité totale. Hein. Donc, la déposition de la volonté de puissance, c'est l'abdication de tout pouvoir. Et ce délaissement de la volonté de puissance, ce renoncement au mauvais infini de la volonté de puissance, cette abdication de tout pouvoir, c'est ça que Heidegger appelle d'un mot qu'il est allé chercher, ou qu'il a trouvé plus exactement, il l'a trouvé chez Maître Eckhart, parce qu'il est grand lecteur de Maître Eckhart. Heidegger n'aime pas l'Église catholique comme puissance, ça c'est clair, comme institution. Mais il a une grande affection, et le mot est faible, pour la pensée mystique, en l'occurrence pour les mystiques rhénans comme Maître Eckhart. Il lit beaucoup Maître Eckhart. Eh bien, c'est le mot Gelassenheit, Gelassenheit. Gelassen, c'est laisser, hein. Lassen, c'est laisser. Gelassenheit, c'est le fait de s'en remettre à Dieu, très exactement chez Maître Eckhart. On s'en remet à Dieu et le reste, on le laisse. Le reste, on le laisse. C'est très bien dit à sa manière par ce vers dans Médium. C'est ce qu'il dit faire, en tout cas. Il dit « vivi comme ça ». Au milieu de tous les fous, qui sont les fous de la société du spectacle, les journalistes, tout ça, il fait semblant d'être... Il dit « oui, il faut toujours dire qu'on est d'accord avec eux, et puis n'en pensez pas moins ». et préserver son lieu saint. Ben, son lieu saint, il en a au moins un. Ben, lui, c'est le catholicisme, mais c'est aussi Venise. Alors, tout se passe à Venise, qui est pour lui un peu une ville sainte, un lieu refuge. Voilà, un lieu refuge contre la violence, la connerie, la méchanceté, la puissance de l'argent, etc., etc. Et vous trouvez ça exprimé très bien dans un texte qui est un commentaire d'un vers de Hölderlin, toujours dans Essai Conférence, et le texte qui s'appelle « L'homme habite en poète », sur lequel je peux terminer parce que ça dit bien ce que c'est, et ça fait boucle avec ce que j'ai dit au début sur le lieu. Lieu saint, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un lieu C'est seulement dans le climat de la pure peine que l'homme s'efforce de mériter. Là, il accumule les mérites. Oui, parce que là, il commente le vers complet de Hölderlin. C'est le fameux poème qu'on a retrouvé à la fin de la vie d'Hölderlin, c'est dans le bleu du ciel. Enfin, c'est pas le bleu du ciel, ça c'est un titre de bataille. L'homme habite en poète, poétiquement habite l'homme. Dichterisch wohnt der Mensch. Plein de mérites, etc., dit Hölderlin. Alors, je lis le texte. Là, il accumule les mérites, mais il est aussi permis à l'homme, dans ce même climat, à partir de lui, à travers lui, d'élever le regard vers ceux du ciel. Ceux du ciel, c'est l'expression de Hölderlin pour désigner les dieux. Hein. Himmlische, les célestes. Le regard vers le haut parcourt toute la distance qui nous sépare du ciel, et pourtant il demeure en bas sur la terre. Le regard vers le haut mesure tout l'entre-deux du ciel et de la terre. Cet entre-deux est la mesure assignée à l'habitation de l'homme. Cette mesure diamétrale qui nous est assignée, et par laquelle l'entre-deux du ciel et de la terre demeure ouvert, nous la nommons la dimension. Voilà, je crois qu'on peut en rester là.